On est de retour à l'émission. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.1, d'avoir choisi l'heure CV en ce lundi 11 mars, 0 degré à l'extérieur. Ben, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Il est de l'autre bout de la 40 ou de la 20, ça dépend de votre choix, mais il est surtout de l'autre bout du Zoom pour nous jaser ce matin. Notre chroniqueur du lundi, notre chroniqueur régulier, Frédéric Bérard, avocat, auteur, conférencier. Salut Fred.
Salut Pascal.
T'as l'air en forme.
Ben écoute, comment je te dirais ça, c'est... Ben merci.
OK. Y a-t-il une raison particulière ou... parce que t'es dans les gros dossiers, là, ces temps-ci.
Ouais, mais j'ai encore des relents de mes reportages en Amérique centrale. Écoute, si c'était juste de moi, là, je repartirais là, je t'avoue. Je vous aime beaucoup, là, mais la slush, la neige, non, c'est sérieux.
T'as le blues du retour dans l'hiver.
C'est ça une autre fois, moi.
Pourtant, il a été clément cet hiver-là. Un endroit où tu n'irais pas, je pense, en ce moment, par contre, Frédéric, mais qu'on peut observer de loin, c'est en Haïti. Pourquoi on en parle ce matin? Parce que c'est super important, en fait, tout ce qui est relations internationales ou encore crise internationale. Ça nous concerne bien plus qu'on pense. Un endroit où beaucoup de militaires canadiens, québécois sont allés dans les dernières années ou encore juste des gens pour l'aide humanitaire ou autre, c'est en Haïti. Et en ce moment, il y a une crise importante. Il y a eu évacuation de diplomates. La situation en Haïti est gangrénée par des gangs criminels. Ça fait l'objet, en fait, d'une grande crise, là, partout aussi autour, même en Jamaïque. On est en train, comme je te disais, d'évacuer des diplomates européens de Port-au-Prince. On est en état de siège. Même ceux que nous avions là-bas sont en train d'être évacués ou encore on regarde leur position. Juste pour parler de cette situation-là, faire bien comprendre aux gens ce qui se passe en Haïti, comment tu résumerais pourquoi est-ce qu'on est rendu dans une situation aussi catastrophique là-bas?
Ouais, t'as raison de dire que je ne pourrais pas y aller même si je le voulais parce que l'aéroport vient d'être pris en otage, là, passe-moi l'expression, par les gangs de rue. C'est le premier ministre actuel est même incapable de retourner dans son pays. Il est coincé à Porto Rico. Il n'y a aucune manière de prendre un vol vers Haïti. Actuellement, moi, tu vois, j'y étais en 2018 lorsque l'ancien président Moïse était là. Je l'ai croisé par ailleurs et il s'est fait assassiner quelques années plus tard. Mais on sentait déjà, hein, Haïti, c'est compliqué, ça fait longtemps. Et petite anecdote peut-être intéressante, la femme de Moïse, elle-même accusée. Oui. D'avoir comploté là, pour...
le meurtre de son mari.
Le meurtre de son conjoint, c'est ça.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Frédéric? Parce que dès le départ, finalement, on la prenait plus pour une veuve éplorée. Et ouais. Ça a changé dans les derniers jours. En fait, cette nouvelle-là de ces accusations qui sont sorties contre elle, ça fait peut-être une semaine et demie pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier. Là. Comment est-ce qu'on a réussi à épingler peut-être cette femme-là puis comprendre qu'elle aurait comploté contre son propre mari et pour son assassinat?
Et c'est quand même assez spectaculaire hein, quand on y pense. Et allô, l'hypocrisie, là, cette dame-là qui donnait des entrevues, oui. Là, comme, c'était épouvantable. Mais, sérieusement, là, c'est, comme disent les jeunes, c'est next level, là, et, moyen temps. Ceci dit, ben, sûrement avec la preuve, hein, ils ont dû discuter avec certains accusés, puis très clairement, certains d'entre eux là, qui ont décidé de la balancer. Là, et de là, les accusations, on verra, ceci dit, hein, elle bénéficie de la présomption d'innocence, on verra ce qui se passe jusqu'en bout de piste, là, parce que c'est toujours un peu compliqué ces affaires-là. Mais pour revenir à ta question plus globale, Haïti, puis c'est pour ça que je parlais de 2018 et tout, ça fait longtemps que c'est compliqué. C'est pas d'hier. Il y avait une certaine accalmie dans le temps d'Aristide. Puis moi, ça me touche personnellement comme plusieurs autres Québécois parce qu'on a une grande amitié avec Haïti qui nous unit hein, depuis longtemps. Il y a eu hein, deux grosses vagues de réfugiés haïtiens à l'époque en rapport à Papa Doc et Bébé Doc, là, respectivement, comme on les appelait. Les Haïtiens font partie du Québec, sont ouais. Québécois. Et de voir ça, c'est toujours un peu désolant. Là, ce qu'on sait, c'est bon, la corruption, puis c'est pas propre à Haïti, hein, qu'on s'entende bien. Là, quand on se parlait, quand j'étais en Amérique centrale, la corruption, il y en a partout à divers niveaux. Les gangs de rue ont gangréné la vie publique là-bas, comme le Salvador a été lui-même aux prises avec le même enjeu. Là, tu t'en souviens, on en parlait. La seule différence, c'est que l'Haïti n'a pas été capable encore de mater le problème comme tel, ce qui fait en sorte que, bien franchement, ce sont les gangs de rue
Qui ont pris le contrôle.
qui gèrent le pays, un peu comme les gangs criminalisés faisaient la même chose au Salvador il y a de ça un an à peine.
Qu'est-ce qu'ils recherchent, en fait, ces gangs de rue-là? Parce qu'ils ont vraiment pris possession d'Haïti. Il n'y a plus vraiment de gouvernement qui gère. On parlait même du fait qu'ils ont réussi à bloquer l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils recherchent là-dedans? Est-ce une histoire de drogue, de pouvoir? C'est quoi le but de ces gangs-là?
Je pense que c'est un peu de tout. Un peu en plus d'aéroport, il faut le dire, ils ont maintenant pris en otage le port lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune manière de débarquer ou de sortir d'Haïti au moment où on se parle, à moins d'un petit miracle. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Bien, évidemment, c'est le pouvoir essentiellement, puis ça finit par monter à la tête, hein? Ces gangs de rue-là, puis moi, je ne suis pas un spécialiste là, de la question, mais j'en ai vu assez pour savoir un peu de quoi je parle. Ces gangs de rue-là finissent par s'enivrer du pouvoir, hein? Finissent par réaliser qu'ils ont réussi, en fait, à penser du moins qu'ils ont réussi dans la vie, puis qu'il n'y a rien qui va se passer dans ce pays-là s'ils ne donnent pas leur accord. Moi, j'ai même, par mes petites recherches, appris qu'il y a même des gens au pouvoir officiellement comme tels qui finançaient les gangs de rue, et c'était le cas de Moïse, qui finançaient les gangs de rue, notamment en leur donnant des armes, en disant, bon, ben, pendant qu'ils se tapent sur la gueule un versus l'autre, moi, ils vont me ficher la paix essentiellement. Donc, en d'autres termes, souvent, le pouvoir institutionnalisé est lui-même complice de la naissance de ces gangs de rue-là. Et arrive un moment donné aussi, disons les choses franchement, du fait de l'état de pauvreté presque extrême dans lequel est plongée la population actuellement,
Ben oui,
ben,
on voyait dans les derniers jours des gens essayer de partir de chez eux. Je ne sais pas trop où ils vont aller parce que finalement, ils ne peuvent pas quitter Haïti. Mais tout ce qu'il y avait, puis l'image était frappante. C'était un père avec un semi-tapis sur la tête, probablement quelque chose qui sert à dormir dessus. Deux, trois seaux, puis les enfants avaient des sacs en plastique dans les mains pour les effets personnels. C'est tout ce qu'ils réussissent à apporter parce qu'ils n'ont rien d'autre au final aussi, là.
Non, écoute, moi j'avais visité Port-au-Prince, puis la moitié des endroits étaient excessivement dangereux, là. Moi, c'est pas le genre d'affaire qui me fait craindre tant que ça habituellement, mais là, j'avais compris que c'était une bonne idée de ne pas insister. Et c'est toujours l'espèce de servicieux, hein. Quand tu rentres dans le cercle, je dirais, infernal de la pauvreté, bien évidemment, tu essaies de t'en sortir. Et de là, souvent, la naissance des gangs de rue
Oui.
qui finissent, on disait tout à l'heure, contrôler essentiellement le pays. Et là, il y a un pouvoir parallèle qui s'est créé, qui ont été alimentés par le pouvoir institutionnalisé. Et là, on vient de l'échapper. Et là, très, très clairement, donc même les soldats sont incapables de conserver un minimum de sécurité. Moi, j'ai un ami qui est ça, diplomate du Canada en Haïti. Ils ont été évacués, écoute, si je ne me trompe pas, c'est en 2022. Donc, ça commence à faire une mèche. Ce gars-là me disait, je vis dans une prison dorée, j'ai beau être à l'ambassade, machin, mais c'est un consul en fait, j'ai une piscine et tout, mais je suis incapable d'aller à l'épicerie sans être accompagné dans une espèce de char blindé et avec des militaires. Et ça, c'était même avant le paroxysme, là, celui des derniers jours.
Merci Frédéric pour cette revue-là d'Haïti. En passant, juste dire qu'on va avoir Franz Voltaire, qui est historien expert d'Haïti, dans l'émission du midi un petit peu plus tard pour refaire en fait toute cette histoire-là. Ça risque d'être fort intéressant pour comprendre le dossier. Un autre dossier intéressant dans l'actualité qui fait beaucoup réagir, Frédéric, c'est celui du transfert de Luca Rocco Magnotta dans un pénitencier à sécurité moyenne. Il était dans un pénitencier à sécurité maximale. On connaît Luca Rocco Magnotta pour malheureusement, des histoires épouvantables. Celui qui avait dépecé un étudiant, qui avait mis ça sur le web. Là, bon, vous connaissez l'histoire de Rocco Magnotta. Le hic, est-ce qu'il est transféré dans cette prison à sécurité moyenne dans les Hautes-Laurentides et il s'en va finalement rejoindre le tueur en série Paul Bernardo. On dirait un vieux et très mauvais film de deux gens qui ont fait le genre de même saccage en société et qui se ramassent ensemble pour comploter à cafétéria. C'est un peu l'image qu'on peut avoir, mais ça fait réagir parce qu'à 41 ans, lui qui purge une peine de prison à vie pour le meurtre de l'étudiant dont on parlait, s'en va finalement dans une prison où il y aura plus de permission, plus de lousse, une qualité de vie quand même plus intéressante. On parle d'une patinoire même pour que les détenus puissent s'amuser. Ça fait réagir. Est-ce une bonne chose? Comment est-ce qu'on explique un choix comme celui-ci?
Bien, déjà, d'entrée de jeu, je ne sais pas si tu te souviens, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour sa famille, la famille de l'étudiant, évidemment. Là. Tu te rappelles peut-être son père, c'est un étudiant chinois, son père était venu de Chine lors du procès
Oui.
de Narita, puis s'était adressé aux médias. Écoute, c'était à briser le cœur. Sérieusement, moi, je me rappelle encore de cette entrevue-là, là, puis j'en ai encore mal pour lui.
Le père de John Lynn, j'ai le goût de le nommer parce que c'est pas que nommer Lucas Rocco Magatta, c'est le père de l'étudiant John Lynn, effectivement, qui a été tué.
Et moi, ça m'avait pulvérisé. Et je comprends très bien la frustration citoyenne actuellement, puis je la partage en partie, mais je pense que c'est important de comprendre comment fonctionne le mécanisme comme tel. Puis c'est un peu pour ça que je voulais en parler. Tu sais, il y a des politiciens qui... Puis c'est correct que les politiciens donnent leur opinion là-dessus, mais on ne veut pas avoir de politicien qui se met à faire cette job-là. C'est un job ultra spécialisé. C'est pas fait pour les politiciens. C'est pas fait pour l'humeur populaire. C'est un job de professionnel indépendant et impartial. Et cette job-là, c'est quoi? C'est d'évaluer si le prisonnier, dans ce cas-ci Magnotta, ou Bernardo, c'est la même chose, après X nombre d'années, présente un profil qui n'est pas dangereux, présente un profil qui n'a pas fait de trouble en dedans, il a pris son trou, il est dans aucune magouille institutionnelle. On veut récompenser ces gens-là, entre guillemets. Je sais que c'est fâchant là, d'employer le terme récompenser après tous les crimes, après ce genre de crimes-là, on s'entend bien. Mais pour éviter justement les émeutes en prison, pour essayer de, pas de réhabiliter, parce qu'un gars de même, il n'a rien à faire, puis moi, je te garantis qu'il ne sortira jamais de prison, mais pour s'assurer d'un comportement qui ait un minimum d'allure d'un point de vue vie pénitentiaire, parce qu'autrement, c'est quoi la solution? Bien, c'est de dire, il n'y a jamais rien qui se passera pour toi. Puis je sais qu'on a ce sentiment-là de vouloir se venger comme tel, mais notre système, ça a été donc de décider, quand tu auras un bilan impeccable, et j'insiste, impeccable, tu auras droit potentiellement à une récompense dans X nombre d'années. Et là, la récompense n'est quand même pas énorme non plus. Là,
c'était un transfert dans cette prison à sécurité moyenne. Fait que ce que tu dis, toi, c'est que si on ne donne pas d'espérance ou d'espoir à un prisonnier, peu importe lequel, qui a amélioration de sa condition possible, il pourrait se mettre à faire le trou parce qu'il n'y a plus rien à perdre encore. Voilà. Pour la suite des choses. Mais ça, c'est très dur à saisir là, quand on a vu peut-être la vidéo, quand on a entendu parler de tout le mal et même l'assassinat qu'une personne peut avoir fait, la famille qui vit les dommages collatéraux puis la perte humaine irremplaçable dans leur vie. C'est sûr que c'est complexe pour monsieur, madame, tout le monde, moi-même, toi-même, je crois.
Oui, puis moi, je répète, je partage la frustration, on s'entend bien. Sauf que tu as employé une expression qui est vraiment la plus pertinente ici. Tu as dit « ne plus rien à perdre ». Or, notre système carcéral est basé justement là-dessus. C'est on veut éviter le détenu n'a plus rien à perdre. Dans d'autres termes, on va entretenir un espoir ténu. Hein, dans ce cas-ci, je le répète, ce gars-là, il ne va jamais sortir, ça, je suis convaincu de ça. Un espoir ténu de dire « regarde, si tu as un comportement impeccable, tu pourras améliorer éventuellement tes conditions. » Et là, je le répète, il est encore en prison. Il est à la Macasa, là, c'est à côté de chez moi, à Mont-Laurier. C'est pas Disneyland, là, la Macasa. Là. C'est pas le fun. Là. Mais versus Maximal, c'est sûr que c'est plus intéressant pour lui. Ça, je comprends ça. Mais c'est quand même pas le Klondike non plus. Donc, ça pour dire que notre système de carcéral et notre système de droit criminel, il y a beaucoup d'études en criminologie, hein, ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas une idéologie qui a été lancée comme ça. Les études démontrent que la meilleure façon de s'améliorer comme société, c'est de permettre un espoir aussi lointain soit-il.
Comment est-ce qu'on explique que ça vient quand même autant nous bousculer en tant que citoyen, que de savoir qu'il y aura une patinoire qui va pouvoir aller manger peut-être dans notre imaginaire. T'sais, imaginez Bernardo puis Magnotta assis à table en train de manger un chicken à la cafétéria, que quelqu'un a préparé pour eux avec un lit, avec des activités, puis du social, puis la télé. C'est dur, ça, Frédéric, de se mettre en tête cet aspect-là.
Ouais. Écoute, dans le fond, il y a deux philosophies qui s'affrontent. Il y a la philosophie de la loi du talion, hein, le œil pour œil, dent pour dent. Tu as fait subir, et je comprends, là, je le répète, là, je le comprends très bien, tu as fait subir tel traitement à X et à Y, nous allons te faire subir le pire traitement possible jusqu'à la fin de tes jours. Je comprends ça. L'autre philosophie, c'est quoi? C'est une philosophie basée justement sur une certaine forme, j'insiste, certaines formes de réhabilitation. Donc, on croit, le système croit que l'humain peut s'amender. Il y a des crimes qui ne s'effaceront jamais. Hein. Voler la gomme au dépanneur, c'est une chose. Passer quelqu'un de la manière que l'a fait Magnotta, ça ne pardonnera jamais. On s'entend bien là-dessus. Sauf qu'on veut quand même permettre cette espèce d'ouverture-là à la réhabilitation versus le œil pour œil, dent pour dent. Là, rendu là, on choisit son camp. Moi, tu vois, le camp que j'ai choisi, façon de parler, c'est le camp des. Puis, je comprends l'autre réflexe, je me répète, mais ça vaut la peine. C'est le camp des scientifiques. Puis, les scientifiques, ben c'est les criminologues, parce que c'est une science, la criminologie. Il y a beaucoup, beaucoup de psychologie, de psychiatrie là-dedans. C'est-à-dire que la meilleure façon d'éviter le bordel, c'est de permettre à quelqu'un de penser qu'il n'a pas rien à perdre. Non, il peut y avoir un minimum d'espoir, en quelque sorte.
Ça assurait une certaine cohésion dans nos prisons aussi, c'est un peu ce que j'entends là. Mais les gens sont très critiques, les partis sont forts, les commentaires qu'on reçoit, il y en a qui ne laissent aucune chance à ce genre de choses-là. Peut-être en terminant, au niveau politique, est-ce du théâtre? Est-ce que c'est parce que on fait du capital politique sur une situation comme celle-ci? Ou est-ce qu'un politicien qui sort, qui dit « je comprends », qui a le même discours que toi, « je comprends, il y a deux visions des choses là-dedans. Nous, en société, on a choisi que l'espoir faisait vivre, mais surtout, l'espoir nous permettait d'avoir dans nos prisons une possibilité d'individus au meilleur de ce qu'ils peuvent nous donner, même s'ils nous ont montré le pire d'eux-mêmes. Est-ce qu'un politicien qui sort comme ça va être automatiquement disqualifié de l'arène politique? Est-ce qu'il va pouvoir... Se faire tellement critiquer qu'il va perdre. Donc, le capital politique est fort sur le fait de sortir. Ça n'a aucun sens qu'on mette un Magnotta dans une prison à sécurité moyenne au lieu d'une maximale.
Écoute, ta question est super pertinente. Moi, je te dirais ce que je te dis toujours, c'est que les politiciens ne doivent pas se mêler de ce qui ne les regarde pas. Quand il y a un système d'experts indépendants, il faut que ça reste comme ça. Tu peux faire ton show, tu peux dire, je trouve ça épouvantable, puis c'est correct de le penser. Hein? Moi, je ne juge pas ça. Là. Ceux qui t'écrivent, là, celles qui t'écrivent, disant, c'est dégueulasse, il n'aurait jamais dû changer de prison. Je respecte très, très clairement leur opinion, je comprends à 1 000 000 %. Mais un politicien qui fait ça pour le show, c'est quand même un peu méprisable, tu sais, qu'on se l'admette, parce qu'on n'en veut pas. Puis d'ailleurs, ça a été ça, hein, à la Chambre des communes, tu t'en souviens sur l'affaire de Bernardo, on a essayé de dire, ah, ben, non, non, là, il faut que le premier ministre empêche ça. Le premier ministre n'a pas ce pouvoir-là. C'est comme si tu demandais au premier ministre d'intervenir dans un procès judiciaire pour dire c'est pas comme ça que ça va se passer. Lui, ça, à toutes les fois que c'est arrivé dans l'histoire du Canada, par exemple l'affaire Coffin, l'affaire Kader, ça s'est très, très, très mal
Faut
terminé.
pas
Je
donner ce
pense
pouvoir-là aux politiciens parce que quelqu'un pourra en abuser de toute manière. Faut s'assurer que ce soit
absolument.
deux façons de procéder complètement différentes puis qu'un n'ingère pas dans l'autre.
Exactement. Puis pour terminer là-dessus, si tu veux, moi, je tiens à réitérer ceci. Des gens qui font cette job-là, donc d'évaluer le profil d'un Magnotta, d'un Bernardo, puis d'un XYZ, moi, je leur fais confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ce sont des experts qui ont été formés là-dessus, basés sur une idéologie qui est celle d'une réhabilitation, entre guillemets, possible. Là, je le respecte, je le réaffirme. Je peux être en désaccord avec cette philosophie-là, mais tant et aussi longtemps qu'on a décidé que ça allait être ça, le processus, faisons confiance à ceux qui sont compétents pour gérer celui-ci.
Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, conférencier, un gros merci d'avoir été avec nous encore une fois en ce lundi matin.
Avec grand plaisir, puis bonne chance pour gérer les commentaires.
Ben, j'adore ça, moi. Plus que d'opinions différentes, plus que d'arguments, plus que d'émotions. J'adore. 88-971-1021 ou pour tous ceux qui sont sur Twitch, ben, dans le fil de discussion. Salut Fred, à la semaine prochaine.
Bye.
Vous êtes dans l'RCV, on fait une courte pause, on revient dans un instant.
Salut Nissan.
Oh, OK.